Vous écoutez
Le Modèle Standard,
un podcast gastronomique
de Nicolas Graner
et Valentin Villeneuve.
Aujourd'hui, on va parler sur la Lune, deuxième partie.
Mais donc la Lune, si elle est composée des mêmes matériaux géologiques que la Terre, ça ne doit pas être une coïncidence, enfin... Ça pourrait pas se produire si on avait juste ramassé ça n'importe où.
Ah non, c'est sûr. Si tu regardes les autres satellites des autres planètes, il y a différents modèles de formation. Notamment, souvent, c'est des astéroïdes qui étaient un petit peu plus loin et qui avaient des orbites qui se sont décalées, qui finalement étaient capturées par la planète, comme on dit,
ouais.
Qui sont mis à tourner autour. Mais ça, la Lune, de toute façon, même avant de connaître sa composition, on pensait pas que ce scénario était très plausible pour la Lune. Parce qu'elle est beaucoup trop grosse, elle est assez proche de la Terre, puis vu les caractéristiques de son orbite, ça serait vraiment très très peu probable.
D'accord.
Non, donc ça fait longtemps qu'on se doute qu'elle a dû se former plus ou moins en même temps que la Terre, mais là où vraiment on s'est bien phosphoré très fort dans le détail, c'est quand on a rapporté des roches de la Lune.
Ah oui, ben oui, c'est vrai, on y était.
Oui, entre 69 et 72, surtout les dernières missions, c'était vraiment très axé sur la géologie. Ils ont rapporté des centaines de kilos de roches et on continue à les analyser. D'ailleurs, on fait encore des découvertes, parce qu'on a des méthodes d'analyse qui sont de plus en plus fines. Mais donc, très vite, dans ces années 70, on a compris que forcément, il y avait une origine commune de la Terre et de la Lune. Ces roches sont vraiment tellement semblables, y compris dans les détails, la composition isotopique, des choses comme ça, que vraiment, ça ne peut pas être un hasard. Mais après, il a fallu comprendre ce qui s'est passé vraiment.
Ça serait un bout de la Terre qui serait détaché, par exemple ?
Il y avait une théorie à une époque que la Terre, à l'époque où elle tournait très très vite, tu sais, au début de sa formation, rien que la force centrifuge, ça aurait pu projeter un petit morceau dans l'espace.
Une petite giclure.
Mais ça, on l'a cru très longtemps. Hein. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un livre qui expliquait ça très sérieusement. C'était la théorie admise à l'époque.
D'accord.
Mais alors maintenant, donc depuis qu'on a pu faire ces analyses, vraiment la théorie complètement dominante, hein, celle que presque tout le monde admet comme étant la bonne, c'est celle de l'impact.
L'impact.
Ouais, la théorie de l'impact. Alors en anglais ils disent carrément le big splash.
Big, comme le big bang.
Ouais, c'est ça. Ils aiment bien les expressions un peu frappantes.
Ouais.
Alors le big splash, ce serait quoi? Ce serait un peu comme il y a des météorites, des grosses météorites qui percutent la Terre de temps en temps.
Ouais.
Là, dans les débuts de la formation de la Terre, il y aurait eu un astre mais énorme, beaucoup plus gros que la météorite, qui serait rentré dans la Terre, bang, il serait éjecté des morceaux dans l'espace,
wow.
Et ces morceaux auraient pu former la Lune.
Ah oui, dis donc, ça devait être spectaculaire alors.
Oui, enfin, il n'y avait personne pour le voir. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que quand deux astres se percutent comme ça, suivant leur taille, leur vitesse, l'angle suivant lequel ils se cognent, etc., il peut se passer plein de choses différentes. Ils peuvent fusionner carrément, rentrer l'un dans l'autre, ils peuvent exploser dans tous les sens, il peut y avoir des morceaux qui se détachent. Et donc là, si on veut arriver à ce qui est une lune qui se forme, ça permet de mettre des contraintes, disons, sur ce qui a pu se passer. On peut estimer la taille de cet astre, sa vitesse, l'angle avec lequel elle aurait percuté la Terre, tout ça uniquement parce que nous, on sait que finalement, ça a formé la Lune.
Alors donc, c'était un truc énorme alors?
De la taille d'une planète, quasiment. Hein.
Ah ouais.
Peut-être la moitié de la Terre, la taille de Mars, tu vois.
Ouais,
oui, on n'est plus dans les météorites, là. Et alors, sa vitesse, ce serait 40 000 km/h.
D'accord.
Enfin, c'est des vitesses courantes pour les objets qui se déplacent dans le système solaire. Hein,
mais
ça fait un choc. Hein, là. On n'est plus dans la petite météorite qui a fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. Celle-là, elle a carrément fait fondre une bonne partie de la Terre.
Ah oui, donc on est quand même arrivé à faire un modèle assez précis de ce truc.
Oui, cette protoplanète. Là, on lui a même donné un nom, comme les planètes du système solaire. Celle-là, elle s'appelle Théia.
Théia.
Théia, c'était une divinité qui était la mère de Séléné.
Et Séléné, c'est la Lune.
Et ben voilà, t'es très cultivé. Donc ce serait la mère de la Lune. Bon, après on lui a donné un nom, mais c'est qu'un objet hypothétique, hein. On ne l'a jamais vu directement, bien sûr. Mais c'est amusant quand même.
Ouais, enfin, on connaît sa taille, sa vitesse, on connaît deux, trois choses sur elle quand même.
Oui, on a... Bon, en tout cas, on peut les calculer. Après, comme toujours, il y a des divergences, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les détails, mais en tout cas sur le principe.
Et donc elle est entrée en collision avec la Terre dans ce scénario.
Et ensuite, il y a des morceaux qui ont été projetés dans l'espace. Alors, quand on projette des choses comme ça dans l'espace, qu'est-ce que ça devient? Ben, y en a une partie qui part très loin, qui sort de l'attraction de la Terre et on n'en parle plus.
Ouais.
Y en a une partie qui retombe, une grande partie quand même.
Ouais.
Et puis, si les conditions sont bonnes, y en a une partie qui peut se retrouver en orbite. Et donc, on aurait, juste après cet impact, des milliers de roches et de cailloux qui se seraient mis à tourner en orbite autour de la Terre.
Ah, mais tu veux dire que la Terre aurait eu un anneau?
Pendant un certain temps, oui, il y aurait eu un anneau, comme Saturne a un anneau, d'autres planètes aussi. Oui, la Terre aurait pu avoir son anneau, mais par contre, il n'aurait pas duré longtemps. Hein. On estime peut-être entre 1 et 100 ans, tu vois,
Ouais,
à
pas
l'échelle
beaucoup.
astronomique, c'est vraiment
Ouais.
rien du tout. Et après, une partie du matériau de cet anneau serait retombée, et l'autre partie se serait agglomérée, hein, sous l'effet de la gravitation, tout simplement. Quand tu as des choses qui tournent à peu près sur les mêmes orbites, ils finissent par se rencontrer, se coller, et ça aurait fait la Lune.
Et donc tout le monde est d'accord sur ce scénario ou
Comme je t'ai dit, dans le détail, il peut y avoir des variantes. Par exemple, peut-être qu'il y aurait eu plusieurs impacts. Un principal comme ça qui aurait fait une partie de la Lune, mais après, il pourrait y en avoir d'autres qui auraient envoyé d'autres morceaux dans l'espace qui se seraient agglomérés à la Lune déjà existante. Ou alors, il y en a un autre qui est assez rigolo.
Ouais.
Peut-être que après l'impact initial, il y aurait non pas une Lune, mais deux qui se seraient formées.
Ah.
Celle qu'on connaît qui tourne autour de nous, et une autre qui aurait été beaucoup plus loin dans l'espace. Il y a un point qu'on appelle le point de Lagrange, où un objet peut tourner comme ça de façon assez stable. Et il se serait rapproché petit à petit, et il aurait fini par se coller sur la Lune, mais par derrière, si je peux dire, c'est-à-dire sur la face la plus éloignée de la Terre.
D'accord.
Et ça pourrait expliquer que quand on observe la face de la Lune qui est tournée vers la Terre, la face visible, et qu'on la compare avec l'autre face, celle qu'on a photographiée maintenant, elles sont quand même assez différentes.
Ah, d'accord.
Alors si elles ne se sont pas formées en une fois, mais qu'il y a un truc qui est venu se mettre en couverture sur la face cachée, ça pourrait expliquer ces différences.
D'accord. Mais alors, du coup, on a quand même des modèles qui expliquent assez bien tout ça, finalement.
Oui, ce que ce modèle explique bien en particulier, c'est que la composition de la Lune, je t'ai dit, elle est très proche de celle de la Terre, mais elle est surtout proche de celle du manteau terrestre. La Terre, il y a plusieurs couches, tu sais, il y a la croûte terrestre qui est ce qu'on voit. En dessous, il y a une très grande épaisseur qui est le manteau, c'est des roches différentes. Et encore au centre, il y a le noyau qui est fait, disons, principalement de fer. Mais en tout cas, sur la Lune, il y a beaucoup moins de fer.
Ah.
Donc si on pensait que la Terre et la Lune s'étaient formées en même temps ou par un mécanisme commun, il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle différence. Alors que ce scénario-là, où Théia aurait arraché une partie, il ne serait pas allé jusqu'au cœur de la Terre, il n'aurait pas arraché une partie du noyau de la Terre, mais seulement du manteau.
Ouais.
Et donc ça expliquerait que la composition de la Lune ressemble beaucoup plus à celle du manteau terrestre qu'à celle de la Terre dans son ensemble. Donc ça, c'est quand même un beau succès pour ce modèle-là.
D'accord, mais du coup, la Lune, ça serait pas que de la matière de la Terre. Il y aurait eu un peu d'éclaboussure de Théia aussi,
Ah,
des petits bouts.
il y aurait plutôt la plus grande partie de Théia, puisque Théia étant plus petite que la Terre, c'est elle qui aurait le plus morflé.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est un problème qui se pose, parce que Théia, a priori, sa composition devait être très différente de celle de la Terre. Elle venait d'une autre partie du système solaire. Et donc, si la Lune était principalement du matériau de Théia, elle devrait être assez différente de la Terre.
Ouais.
Or, justement, on a vu qu'elle était très similaire, mais pas tout à fait identique. Donc ça pourrait s'expliquer si une bonne partie de Théia est restée sur Terre, a fusionné, s'est mélangée avec les roches terrestres, et une autre partie est partie pour former la Lune. À ce
D'accord.
moment-là, ce qu'on observe actuellement sur la Terre, ce ne serait pas la Terre d'origine, ce serait déjà un mélange de la Terre et de Théia, et la Lune étant aussi un mélange de la Terre et de Théia,
Mais dans des proportions un peu
un peu
différentes.
différente, ça pourrait expliquer à la fois les ressemblances et les différences.
Ok.
Alors après, il y a encore des différences plus subtiles. Si on regarde vraiment les proportions de certains éléments légers, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait moins de sodium et de potassium dans les roches lunaires que dans les roches terrestres. Alors ça, c'est pas le scénario de formation qui peut l'expliquer, mais par contre, on a pensé à quelque chose après coup, c'est que depuis 4 milliards et demi d'années qu'elle traîne, la Lune, elle se prend ce qu'on appelle le vent solaire. C'est des particules qui sont éjectées par le Soleil, qui partent dans l'espace dans toutes les directions. Alors sur la Terre, on en reçoit, mais pas beaucoup, parce qu'on est protégé par l'atmosphère, par le champ magnétique.
C'est ce qui fait les aurores boréales, d'ailleurs, non?
C'est vrai. La Lune, elle, par contre, pas d'atmosphère, pas de champ magnétique,
Ah
elle
oui,
se
elle se prend
prend,
en pleine poire là.
voilà, tout le vent solaire, et donc ça pourrait éjecter comme ça le potassium, le sodium, et ça pourrait expliquer que maintenant il en reste moins sur la Lune que sur Terre.
D'accord.
Donc tu vois, quand on commence à rentrer dans les détails, il faut vraiment des explications précises pour chaque ressemblance, chaque différence. Et bien sûr, il y a des controverses entre les astronomes, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais on est en train de construire petit à petit des modèles qui vraiment arrivent à expliquer une grande partie de ce qu'on observe.
Ouais. Alors du coup, il faut que je mette tout ça en anglais.
Et en musique.
Oui. Le big splash, tu dis, donc la grosse éclaboussure là, comme ça.
Ouais, grosse collision peut-être.
D'accord, oui, collision, je pourrais faire rimer avec crash du coup.
Ah bah oui.
Et alors donc pour dire qu'elle se coagule là comme ça.
Alors ça s'appelle l'accrétion, si tu veux le mot exact.
Ah, l'accrétion. Oh, joli. du coup, you may come from a big
Tu viens peut-être d'un gros plouf.
Ben oui. But scientists wonder what crash
Mais les scientifiques se demandent quelle collision.
could result in such a huge matter ejection.
aurait pu causer une telle éjection de matière.
If Theia did collide,
Si Théia a percuté,
then debris would spread wide.
alors les débris se répandraient largement
till mass by gravitational accretion.
jusqu'à ce qu'ils soient amassés par l'accrétion gravitationnelle.
Voilà.
D'accord, ça colle.
Donc là, bah, c'est le refrain, hein. Donc j'étais en ternaire. Mais au niveau harmonique, bon, je suis encore un peu en train d'hésiter, mais j'ai essayé d'utiliser quelque chose qu'on appelle la cadence évitée.
Attends, tout à l'heure, ta cadence a été parfaite et maintenant tu veux l'éviter.
Ben oui, parce que la cadence parfaite, elle crée une attraction, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On a envie vraiment d'aller de l'accord de dominant, par exemple sol, vers l'accord de tonique, par exemple do. Ok? Mais justement, c'est ça tout l'intérêt de la musique, c'est que tu crées une attente, et puis après cette attente, soit tu peux la satisfaire, soit tu peux la faire attendre encore un peu plus, donc tu restes en suspens.
Ah, t'es un petit coquin, toi.
Soit cette attente, tu peux la tromper.
Carrément.
Voilà, c'est-à-dire, je te fais cet accord, et tout d'un coup, je vais vers un autre accord complètement. Ou alors, je vais vers un autre accord complètement. Donc par exemple, dans Blue Moon, dans le couplet de Blue Moon, là, j'avais ma cadence parfaite. Hein. Si je joue juste les accords, j'ai bien mon accord de sol et mon accord de do, la cadence parfaite. Mais un peu plus loin, beaucoup de jazzmen font quelque chose de différent sur la suite de la chanson. Ils commencent pareil. Là, je fais mon atoll hein, avec la cadence parfaite. Là, tu vois, j'aurais pu faire. Là, je fais vraiment la cadence parfaite, hein. Mais tu entends, j'ai changé juste le deuxième accord. Au lieu de revenir vers un accord de do, je t'ai emmené vers un accord de mi, qui est un peu différent.
Un accord de mi, ça veut dire mi, sol, si, si je
C'est
saute une
ça.
note à chaque fois.
C'est ça. Et donc, il y a deux notes communes hein, avec l'accord de Do majeur,
Ah oui.
Do, Mi, Sol. Là, j'ai Mi, Sol, Si à la place. Et du coup, là, clairement, on est en suspens. Si j'avais fait. Là, ma mélodie pourrait s'arrêter là. J'ai fait vraiment ma cadence parfaite. J'ai joué mon accord de Do majeur. Mais. Là, j'ai fini juste par mon accord de mi et on se dit, ah, il nous manque encore quelque chose. Donc. Là, c'est bon, j'ai vraiment fini sur mon accord de Do majeur. Donc, cette histoire d'éviter les cadences parfaites, de déjouer les attentes de l'auditeur, c'est un ressort assez essentiel dans l'écriture musicale. Et je vais peut-être essayer d'exploiter ça d'une façon ou d'une autre. Ça y est, il est arrivé au bout de son chemin.
Donc là, tu es dans des harmonies que tu crées, mais tu es encore à la base sur Blue Moon.
Ben, je suis parti d'harmonies qu'on utilise fréquemment quand on accompagne la chanson Blue Moon, effectivement. Mais d'ailleurs, Blue Moon, finalement, tu m'as toujours pas dit, mais pourquoi lune bleue? Enfin, c'est bizarre cette expression.
Ah oui, ça c'est une histoire rigolote, effectivement. Alors déjà, il y a des fois où la lune peut apparaître légèrement bleutée quand on la regarde dans le ciel. Ça, c'est vraiment un phénomène physique. C'est quand il y a des petites particules d'une certaine taille qui sont dans l'air, par exemple après une éruption volcanique ou un incendie, tu vois, il y a des petites cendres
ouais.
très, très petites qui vont diffuser la lumière. Alors que ça fait des sortes de nuages au loin, on ne les voit pas en tant que tels, mais quand ça passe devant la Lune, ça fait que ça nous modifie un peu la couleur de la Lune et elle peut apparaître bleutée.
Ouais, enfin, ça c'est la pollution atmosphérique, quoi.
Oui, mais qui existe aussi dans la nature. Hein. Les volcans, ça existait avant les humains.
D'accord.
Donc effectivement, il y a un sens de l'expression Blue Moon qui peut vouloir dire lune qui a une teinte légèrement bleutée.
Et alors, ils pensaient à ça quand ils ont fait la chanson?
Non, en fait, ce n'est pas du tout le sens que ça a pris maintenant. La Blue Moon, ça n'a rien à voir avec la couleur, en fait. C'est une histoire de phase de la Lune. Donc tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure, la Lune, les phases reviennent tous les 29 jours et demi.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire pratiquement chaque mois, on a une pleine Lune, une nouvelle Lune, etc.
OK.
Et à peu près chaque mois. Un mois, ce n'est pas 29 jours et demi.
Ah, ben oui.
Donc si jamais, par exemple, la pleine Lune tombe le premier du mois,
Ouais. Tu
la...
vas en avoir une autre vers le 30.
Exactement. C'est-à-dire que tu auras deux pleines lunes dans le même mois.
Ouais.
Et ça, c'est quand même assez exceptionnel.
Oui,
Ça,
d'accord.
c'est pas rarissime, mais
Bah oui,
enfin,
enfin on peut calculer ça.
oui, ça c'est pas difficile à calculer. En gros, ça revient presque une fois tous les 3 ans. Donc, tu
D'accord.
vois, c'est un truc un peu rare, mais enfin, c'est pas du tout exceptionnel.
Oui, puis c'est régulier, quoi.
Voilà, quand on dit l'expression complète, souvent c'est once in a blue moon, ça se
Ouais.
produit une fois toutes les lunes bleues. Bon, ça veut dire quasiment jamais, comme on dirait à la cinglinglin,
Ouais.
mais en réalité, si on le prenait au sens strict mathématique, ça voudrait dire une fois tous les 3 ans, c'est pas très exceptionnel.
Ouais, vu comme ça, bah, c'est sûr.
C'est une expression populaire qui s'est un peu écartée du sens astronomique.
D'accord.
Et puis, il y a l'équivalent pour la nouvelle lune, hein. Pareil, si la nouvelle lune se produit le premier du mois, ben, la suivante sera le 30 du même mois, et à ce moment-là, on appelle ça une black moon.
La lune noire.
Ben oui.
Oui, bah, ça je comprends, parce que bon, elle est noire, on la voit pas, c'est une nouvelle lune. Mais bleu, pourquoi bleu alors?
Ah, l'étymologie de cette expression, ça c'est intéressant. En fait, si tu cherches un petit peu sur Internet ou ailleurs, tu trouveras très facilement une explication qui est que ce serait un malentendu, qu'en fait, blue, ce ne serait pas du tout le mot anglais actuel, blue, blue, qui veut dire bleu, mais ce serait un vieux mot d'ancien anglais qui serait blue.
Wow, blue.
Oui, ça doit se prononcer quelque chose comme ça. Je parle très mal le vieil anglais. Blue, mais qui veut dire en fait menteur, trompeur.
Ah, une lune trompeuse.
Ah, ce serait une histoire d'astrologie ou je ne sais trop quoi, parce que bah, normalement on s'attend à avoir une pleine lune tous les mois, et quand il y en a une deuxième, on est trompé.
Ah ouais, ça me défrise là.
Donc ça, c'est une étymologie qui s'est pas mal répandue, mais en fait qui est complètement fausse.
Ah bon?
Oui, c'est un article qui est apparu il y a quelques dizaines d'années, et l'auteur faisait cette hypothèse que ça pourrait être ça l'origine.
Ah.
Et en fait, assez récemment, l'auteur a refait un article pour dire que non, c'était complètement bidon. Il avait imaginé que ce serait une étymologie possible, mais il n'y avait aucune base pour ça.
Ben c'est ce qui produit quand tu confonds une hypothèse et un fait, quoi.
Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a été beaucoup repris. Et donc maintenant, il y a plein de sites où tu trouves cette explication-là.
C'est vrai que c'est séduisant, hein. Blue, qui aurait.
Alors, la vraie explication, elle est un petit peu moins rigolote.
Ah.
Ça vient d'un almanach,
Ouais.
un calendrier, l'almanach des fermiers d'Amérique du Nord. Alors, je ne sais pas si tu connais ce genre d'almanach au 19e siècle, au début 20e, qui fait à la fois les prévisions météo pour toute l'année, bon, ça n'a pas grand sens, qui te donne des conseils pour cultiver, à quel moment il faut semer, etc. Qui te donne les phases de la lune.
Ah ouais.
Et bon, tout ce genre d'informations qui pouvaient intéresser les fermiers avant que l'agriculture soit un peu plus scientifique.
Et il était imprimé en bleu.
Pas entièrement, mais il marquait les pleines lunes. Et normalement, il y a 3 pleines lunes à chaque saison. Une saison, c'est 3 mois.
OK.
Et ça leur servait de repère pour, je ne sais pas
Les
quoi,
récoltes, tout
semer, voilà.
ça.
Et quand, par hasard, il y avait une quatrième pleine lune dans la même saison, dans le même groupe de 3 mois, eh ben, ils en marquaient une en bleu pour attirer l'attention, pour dire, attention, cette saison-là, il y a une pleine lune de plus, donc ne vous trompez pas. Voilà. Donc là,
D'accord.
la blue moon, au sens vraiment strict, c'est la troisième pleine lune
Ouais.
sur un bloc de 3 mois où il y en a quatre.
Ok.
C'est vraiment très pointu.
Ah oui, effectivement. Ah, oui, les fermiers, ils étaient balèzes.
Bon, ceci dit, s'il y a 4 pleines lunes sur un groupe de 3 mois, ben forcément, il y a un mois où il y en a deux. Donc finalement, ça revient au même.
Ah, donc ça vient de là, en fait.
En tout cas, cet almanach qui était très très répandu, il existe toujours d'ailleurs. Mais
Ah ouais,
je ne
d'accord.
sais pas s'ils impriment toujours les lunes en bleu, je ne suis pas sûr.
D'accord, mais en tout cas, c'est complètement arbitraire, parce que je veux dire, si on avait des mois qui durent 40 jours, ça serait encore complètement différent, etc.
Ah oui, c'est pas un phénomène astronomique, hein, la Blue Moon, la Lune bleue, c'est juste une coïncidence, on peut dire, entre les cycles astronomiques et puis les cycles complètement conventionnels de notre calendrier. Hein.
D'accord.
Et d'ailleurs, dans d'autres cultures qui utilisent des calendriers différents, le phénomène n'existe pas. Enfin,
Bah oui, évidemment, oui.
c'est pas du tout un phénomène scientifique, astronomique, il ne se passe rien de spécial ces jours-là.
Ok. Bon, bah alors je vais essayer de dire ça. Blue moon.
La lune bleue.
Just an ordinary full moon.
Juste une pleine lune ordinaire.
For the second time in a month.
Pour la deuxième fois dans le mois.
A rather common occurrence.
Un événement assez courant.
Black moon.
La lune noire.
Another banal phenomenon.
Un autre phénomène banal.
An arbitrary criterion.
Un critère arbitraire. Vraiment pas grand chose à redire.
Bah là, je pense que je commence à vraiment me stabiliser sur la mélodie et sur les harmonies surtout. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai une idée. J'ai fait tourner mon anatole, mais je l'ai fait tourner à l'envers.
À l'envers, c'est-à-dire tu fais les mêmes accords, mais pas dans le même ordre?
Exactement. Au lieu de faire Do, puis après La, puis après Ré, puis après Sol et encore Do. Eh ben, je suis parti de Do, et après je suis allé directement sur Sol, puis après Ré, puis enfin La, et après je reviens sur Do.
Alors, ça fait quoi si tu les enchaînes?
Ça fait un enchaînement qui est beaucoup moins habituel et qui est même assez maladroit. Je veux dire, un élève qui ferait ça, il se ferait exploser la gueule.
C'est parce que justement, tu m'as expliqué tout à l'heure que les accords s'appelaient les uns les autres et là, ils ne s'appellent plus du tout. Alors.
Et exactement. Si tu prends ne serait-ce que les deux premiers, je t'avais dit, la cadence parfaite, hein, c'est vraiment d'aller de Sol vers Do. Mais si tu vas de Do vers Sol, t'entends ça? Ça ne mène nulle part. C'est... On se dit, qu'est-ce qu'il lui prend là? Alors, du coup, c'est assez difficile, mais j'ai essayé de le faire passer quand même en me disant qu'avec suffisamment d'assurance, on s'en rendrait pas compte.
D'assurance, tu veux dire dans la façon de jouer ou dans ta composition, tu as rajouté des choses?
Alors, j'ai un peu triché, il faut dire. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que discrètement, j'ai rajouté un cinquième accord. Parce que du coup, mon cycle de quinte, je le prends en sens inverse. Je vais de Do vers Sol, je vais de Sol vers Ré, donc je monte d'une quinte là. Je vais de Ré vers La, Ré universel La. Et j'ai rajouté encore un cinquième. Logiquement, ça va être quoi?
La, Si, Do, Ré, Mi, ça fait un Mi?
Ça fait un Mi. Et un accord de Mi, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, Mi, Sol, Si.
C'est presque les mêmes notes que Do, Mi, Sol.
C'est presque les mêmes notes que Do, Mi, Sol, mais c'est aussi presque les mêmes notes que Sol, Si, Ré.
Ah mais oui, il y a deux notes en commun.
Exactement, Mi, Sol, Si. C'est très intéressant parce que dans mon Mi, Sol, Si, je retrouve le petit Si. Tu te souviens de la note sensible qui a très 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 envie d'aller vers le Do?
Oui.
Et donc du coup, au lieu d'enchaîner Sol, Do, je ne peux plus le faire puisque je le prends en sens inverse, je vais enchaîner le Mi avec le Do. Écoute bien ça.
Ça fait comme une cadence, on a envie de s'arrêter là?
Ça fait un tout petit peu comme une cadence parfaite, alors c'est pas du tout une vraie cadence parfaite. mais ça me sert, donc tu vois, je vais faire passer mon petit accord de Mi très discrètement juste après l'accord de La, écoute bien. Tu vois, il est passé là très rapidement. Petit La, hop, le petit Mi. Et voilà, personne n'a rien vu.
Et ça fait que, inconsciemment, on entend des notes qui s'enchaînent bien, des accords qui s'enchaînent bien, sans vraiment comprendre pourquoi.
Voilà, ça nous évoque une cadence parfaite, lointainement, mais on a tellement envie d'entendre qu'on est persuadé de l'avoir entendu quand même. Voilà, et finalement... Mais bon, ok, mettons que la lune bleue, ok, c'est complètement arbitraire, ça tombe comme ça, mais quand même, les phases de la lune, c'est quelque chose qui est vachement important pour nous tous, enfin, pour tous les êtres vivants, pour les êtres humains, notre émotion, notre humeur, etc.
Ah, faut faire très attention quand on aborde ce sujet-là, parce que, bien sûr, la lune, elle a une influence sur ce qui se passe sur Terre, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi tellement de choses... qu'on imagine à ce propos. Il y a un mélange de vrai, de pas vrai, de sûr, de pas sûr. Il faut vraiment être prudent quand on aborde ça, pas raconter des choses comme ça à l'emporte-pièce. Alors si tu veux, on peut essayer de voir quelques exemples.
Oui.
Il y a des choses qui sont vraiment évidentes, c'est les marées.
Ah bah oui.
Pour, voilà, pour un animal qui habite sur la plage, où tantôt il y a la mer, tantôt il n'y a pas la mer, c'est sûr que la marée, elle va avoir une grosse influence sur sa vie.
D'accord. Et
Ça,
pour une femme de marin, ça va avoir une influence sur son humeur.
suivant l'heure où le marin doit se lever pour aller pêcher, c'est ça?
Voilà.
C'est possible. Mais là, ce n'est pas de ça que je parlais. Non, je parlais vraiment des marées. Bon, là, effectivement, c'est bien la Lune qui est la cause principale des marées, et les marées ont une influence sur un grand nombre d'êtres vivants, marins, des côtes, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Bon.
Il y a un autre effet qui devient clair aussi, c'est que quand la Lune est pleine, elle éclaire un petit peu, et donc les animaux nocturnes qui n'aiment pas la lumière, genre les petites souris qui sortent dans la forêt, elles sont un peu plus prudentes quand elles savent que les rapaces peuvent les voir plus facilement. Donc là, ce n'est pas une influence majeure, enfin, ce n'est même pas vraiment lié directement à la Lune. Si on met un réverbère, ça fait la même chose.
Oui.
C'est simplement la lumière de la Lune, bah, c'est une lumière qui peut agir d'une façon ou d'une autre sur tout ce qui est sensible à la lumière.
Ouais, qui peut te rendre
Mais,
visible d'un prédateur,
voilà.
etc.
Mais c'est pas, y a rien de magique ou de spécialement lié à la Lune là-dedans.
Ok.
Après, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus douteuses. Alors déjà, il y a des légendes, des trucs, c'est assez évident de voir que c'est pas vrai. Par exemple, les règles des femmes, c'est des cycles qui sont voisins de 28, 29, 30 jours, c'est voisin d'un mois lunaire. Donc il y a plein de traditions, de
Bah
légendes,
oui.
d'interprétations, les règles sont liées à la lune.
Bah oui, c'est déclenché par la pleine lune,
Oui,
non?
enfin ça c'est ridicule. Enfin, si c'était
Ah
vrai,
bon?
toutes les femmes auraient leurs règles en même temps. Et ça, il n'y a pas besoin de faire une grande enquête scientifique pour se rendre compte que les femmes n'ont pas toutes leurs règles en même temps.
Ah bon? Ah zut alors.
Et puis, même si on admet qu'elles sont décalées, rien que la longueur du cycle, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont un cycle qui fait rigoureusement 29 jours et demi et le même tout le temps.
Ah
C'est
bon?
souvent irrégulier, plus court, plus long. Bon, donc ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une hypothèse qui suggère que nos très 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 lointains ancêtres, il y a des dizaines de millions d'années, avaient peut-être une horloge biologique interne avec un cycle de 29 jours parce qu'ils se calaient sur la Lune et que les humains auraient gardé cette horloge mais qui maintenant ne se recale plus sur la Lune. Mais qui... Bon, c'est une théorie, mais il n'y a vraiment pas grand-chose pour l'étayer.
Ah.
On est plus dans le domaine du symbolique, hein, la Lune, la femme, le blanc, la pureté, la reproduction.
Oh là là, quelle
Enfin,
horreur. Ah oui, d'accord, ok.
il y a eu des tonnes et des tonnes de choses écrites là-dessus, mais la science n'a vraiment pas grand-chose à en dire.
Bon.
Alors ça rejoint toutes les légendes qu'il y a autour de la pleine lune, les loups-garous, les gens qui se transforment en loups à la pleine lune. Tu fais très bien le loup-garou, il va falloir que je me
Mais
méfie.
moi, tu sais, hein, voilà, tous les 29 jours et demi.
Tu te transformes en loup. Bon, bah écoute, je vais choisir les dates où on fait nos podcasts. Voilà, les sorcières qui font le sabbat à la pleine lune avec leurs esprits familiers et tout ça. Bon,
Ah.
là encore une fois, on est dans le domaine de l'imaginaire, de la légende, de la symbolique. Bon.
OK.
Après, si on va dans des choses un peu plus vérifiables, je dirais, un peu plus factuelles,
Ouais.
par exemple, tu as peut-être entendu dire qu'il y avait plus de naissances, plus d'accouchements les nuits de pleine lune.
Ah.
Et ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui en sont persuadés, y compris des obstétriciens ou des sages-femmes qui te racontent: Ah oui, on est débordés en salle d'accouchement les nuits de pleine lune, on a deux fois plus de femmes qui arrivent.
Ah bah,
Ça,
ils en savent quelque chose alors.
ils devraient en savoir quelque chose. Et pourtant, ça c'est vraiment facile à vérifier, parce que les naissances, en tout cas en France et dans la plupart des pays, elles sont enregistrées jour par jour.
Ouais.
Donc tu vas sur le site de l'INSEE, tu peux télécharger un fichier où tu as toutes les naissances enregistrées jour par jour depuis 1960, je crois.
Ouais.
Ça fait quand même un bon paquet de millions.
Tu te fais ton petit tableur.
Voilà, un petit tableur, un petit programme, et tu regardes le nombre de naissances les nuits de pleine lune, les autres nuits, un jour avant la pleine lune, un jour après,
Et
etc.
ça donne quoi alors?
Rien.
Ah ouais?
Ah non, carrément.
Ah bon?
Il y a autant de naissances les jours de pleine lune que les jours de nouvelle lune, de premier quartier, tout ce qu'on veut.
D'accord.
Alors, pour être tout à fait honnête, il y a en réalité une très légère différence. C'est vrai que les quelques nuits autour de la pleine lune, il y a une fraction de pourcent, hein, c'est moins de 1% de
Ouais.
naissances en plus. Et ça, on ne sait pas très bien pourquoi. En tout cas, ça n'explique évidemment pas ce que ressentent les sages-femmes, les obstétriciens. Hein. S'il y a 0,5% de naissances en plus ces jours-là, ce n'est pas ça qui font qu'ils sont débordés en salle d'accouchement. Ça, c'est clair.
Ouais.
Ce petit phénomène-là, une explication, ce serait un effet psychologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes à qui on a prédit une date d'accouchement juste avant ou juste après une pleine lune. Et
Ouais.
quand elle voit ça sur le calendrier, elle dit: Ah, mais oui, je suis persuadée que je vais accoucher ce jour-là, qui est justement celui de la pleine lune. Et bon,
Ah.
comme on sait que les déclenchements de l'accouchement, c'est quand même très lié à des des circonstances psychologiques aussi, hein, c'est pas que physiologique, il pourrait que ça déclenche un tout petit peu d'accouchement en plus ces nuits-là à cause de la croyance. Bon,
wow.
Ça c'est qu'une hypothèse, hein, j'en sais rien.
D'accord.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une avalanche de naissances la nuit de pleine lune. Là, ça,
ah, zut,
n'importe qui peut le vérifier, c'est vraiment super facile. Je ne comprends pas comment cette croyance peut se perpétuer. Ah si, je comprends un peu, parce que quand on connaît la psychologie humaine, ce qu'on appelle un biais de confirmation.
Un biais de quoi?
Non, pas un biais, un biais, comme quand on est biaisé.
Ah, sacrément biaisé.
On raisonne de façon biaisée, c'est-à-dire que pas tout à fait logiquement. Si une nuit, il y a énormément d'accouchements par hasard dans une certaine maternité, le personnel qui est là regarde son calendrier, il dit « Ah ben oui, c'est pas étonnant, c'est la pleine lune, ça confirme ce que je pensais.
Ouais. »
Si quelques temps plus tard, il y a de nouveau plein de monde et que c'est pas du tout la pleine lune, on l'oublie,
d'accord,
tout simplement. Et donc, après coup, on va pouvoir raconter « Mais oui, mais écoute, je t'assure, regarde, le 23 juin de telle année, on a été obligé de mettre des gens dans le couloir tellement ils étaient nombreux, et justement, c'était la pleine lune. » Ça, on le raconte.
Ouais.
Par contre, les jours où soit c'était la pleine lune et il y avait personne, soit il y avait du monde, mais ce n'était pas la pleine lune, ceux-là, ça n'a aucun intérêt, on ne les raconte pas.
Bon, d'accord.
C'est comme ça que tu as des croyances qui se perpétuent.
Bah oui, oui.
Simplement parce que on garde ce qu'on a envie de garder. Alors, tu as plein d'autres choses comme ça, je ne sais pas, sur la...
Les cheveux qui poussent, par exemple.
Oui, alors, les cheveux qui poussent, c'est encore plus subtil. Il y a des gens qui disent que ce n'est même pas la pleine lune qui fait pousser les cheveux. C'est si tu te coupes les cheveux le jour de la pleine lune, ils repousseront mieux après.
Ah, faudrait que j'essaye.
Alors là, franchement... Le mécanisme qui pourrait faire ça, on n'en sait rien, mais bon, ça ne prouve pas que ce n'est pas vrai. Mais simplement, il n'y a absolument aucune vérification qui a montré que c'était vrai. Alors, les gens qui croient à ça, ils vont se faire couper les cheveux préférentiellement les jours de pleine lune, et leurs cheveux sont en très bon état parce qu'ils les font couper régulièrement, et tu vois, ça marche. Si on ne fait pas la contre-expérience, si on ne compare pas sur un grand nombre de gens ce qui se passe en coupant ce jour-là et ce qui se passe en coupant un autre jour, on peut rien apprendre en faisant l'expérience que dans un sens, ça ne prouve absolument rien.
Mais en même temps, c'est pas idiot. Enfin, puisque ça fait monter la mer, ça va aider les cheveux à pousser, les plantes à grandir, ça fait monter la sève dans les arbres.
Ouais, il y a des analogies comme ça qui disent la lune attire l'eau et donc elle attire aussi la sève, la fait monter dans les arbres comme elle attire l'eau de la mer. Sauf que la lune, elle attire pas du tout l'eau. La lune, elle attire tout. C'est la gravitation universelle.
Ah, il est comme ça.
Elle attire la terre, elle attire l'eau, elle attire l'air. Même. Il y a même des marées dans l'atmosphère.
Ah.
Simplement, l'eau, évidemment, c'est ce qui est le plus visible. La terre, elle se déforme très peu. L'eau, elle se déforme beaucoup plus. Et puis, c'est spectaculaire. Et l'air... On ne s'en rend pas compte si l'atmosphère est plus haute d'un côté que de l'autre.
D'accord.
Ça se voit moins que quand la mer est plus haute. Mais ça n'a rien de spécifique à l'eau. Et en plus, si tu regardes ce que disent les gens, par exemple, la pleine lune, ça fait monter la sève, il n'y a aucune raison. Si c'était une question d'attraction gravitationnelle, ce serait au moment où la lune est au-dessus des arbres, au-dessus de nous. Mais c'est pas à la pleine lune, elle n'est pas plus au-dessus de notre tête qu'à d'autres phases.
Ah oui, elle ne se rapproche pas particulièrement.
Elle ne se rapproche pas. Enfin, il y a un mélange. Il y a aussi ce qu'on appelle la lune montante, la lune descendante. C'est-à-dire les moments où elle est de plus en plus haut dans le ciel et ceux où elle descend, au contraire, elle a une moins grande hauteur dans le ciel.
Ah.
Et ça, il y a beaucoup de gens qui confondent avec la lune croissante et décroissante.
Ah oui, d'accord.
Quand elle est pleine, quand elle va vers la pleine lune, quand elle va vers la nouvelle lune.
Alors qu'elle peut être pleine vers l'horizon, elle peut être pleine en haut,
voilà,
elle peut être pleine n'importe où. Quoi.
Toutes les combinaisons sont possibles. La distance de la Terre à la Lune, elle varie aussi légèrement puisque l'orbite n'est pas circulaire, mais ça n'a rien à voir avec les phases non plus. Enfin, si tu regardes un petit peu toutes ces croyances sur les effets de certains moments du cycle lunaire, elles sont toutes contradictoires entre elles, il y a des confusions dans le vocabulaire, et il n'y a absolument rien de prouvé.
Donc il y a vraiment, c'est que du bullshit.
Alors, il y a des études scientifiques qui ont été faites, hein, beaucoup, sur beaucoup de domaines, qui essayent de prouver s'il y a vraiment un effet mesurable de la Lune sur les humains ou sur d'autres êtres vivants. Il y en a de temps en temps qui donnent des résultats. Alors par exemple, je me souviens d'une que j'avais entendue aux infos et que j'avais été chercher l'article correspondant après.
Ouais.
C'était un site de rencontre qui s'appelait Smart Date, ouais, qui avait trouvé que les nuits, les soirs de pleine lune, ils avaient beaucoup plus de messages sur leur site, donc beaucoup plus de gens qui cherchaient un partenaire pour la soirée, ces jours-là que d'autres jours. Mais eux, évidemment, ils disaient que la lune a une influence sur nous. Ils disaient d'ailleurs, puisque la lune provoque plus de naissances, peut-être aussi qu'elle provoque une libido supérieure.
Oui, d'ailleurs, ça tombe bien, si la pleine lune, c'est 9 mois après.
Oui, enfin, les 9 mois, c'est pas au jour près non plus.
Malheureusement.
Donc, bah, ça m'avait intrigué, cette histoire, parce que c'est, après tout, pourquoi pas, hein, il faut avoir l'esprit ouvert. J'étais allé regarder comment ils avaient fait leurs statistiques, et c'était, en gros, n'importe quoi. C'est-à-dire, déjà, ils avaient fait leurs statistiques sur 3 mois.
Ouais, alors, c'est pas beaucoup.
Sur 3 mois, bon, ça fait une centaine de jours
Ok, mais il y a combien de pleines lunes là-dedans?
T'en as maximum 4 avec un peu de chance.
Ouais, là il y en avait 3 en l'occurrence.
Ouais, okay.
Bon, donc faire des statistiques sur 3 jours, c'est pas terrible. Ouais. En fait, c'est assez marrant cette façon de raisonner. Si tu fais deux groupes de n'importe quoi, je vais dire, je sais pas, je prends dans une classe, je vais mettre les blonds d'un côté, les bruns de l'autre.
Okay.
Bon, en admettant que je sache reconnaître qui est brun, qui est blond. Et puis je regarde leur moyenne de maths. Je prends n'importe quoi.
Ouais.
Bon. Si je fais la moyenne de la note des blonds et la moyenne de la note des bruns, il n'y a aucune raison qu'elles soient exactement égales.
Oui.
A priori, il y en a peut-être qui vont avoir, je sais pas, 12,3 et les autres 12,8.
Bon. Okay. Et tu vas te dire, ah, les blonds sont plus forts en maths.
Et là, voilà. Si je me base que là-dessus, je n'ai pas d'idée a priori. Je peux trouver soit que les blonds soient meilleurs que les bruns, soit que les bruns sont meilleurs que les blonds, mais je trouverai forcément l'un des deux.
D'accord.
Donc là, si je prends 100 jours... Je compte les messages pendant 100 jours sur un site de rencontre, et puis je ferai un échantillon à côté qui est les 3 jours de pleine lune, trouver quelque chose dedans et dire « Ah, ça y est, j'ai découvert une règle, une influence », c'est complètement pipeau. Quoi. C'est le contraire de la méthode scientifique et on est sûr de se tromper.
Oui, enfin, en attendant, ils ont fait leur communiqué de presse, on a parlé de vos infos, tu as entendu parler de ce site dont tu aurais peut-être jamais entendu parler, donc l'objectif est atteint.
Parfaitement.
Ok.
Bon, alors dans le style, si on va même encore plus loin, j'avais lu une autre étude, cette fois qui avait été faite à l'université de Bâle.
Donc Bâle.
De Bâle en Suisse, ouais.
Oh ouais, autant dire c'est un trou, quoi.
Ah, c'est une grande ville quand même.
Bon, ok.
Les calembours n'excusent pas toutes les bêtises quand même. Donc, université très sérieuse, un centre d'études sur le sommeil, et qui avait trouvé qu'il y avait une corrélation entre la qualité du sommeil et la phase de la Lune. Mais y compris quand on est dans une pièce fermée, qu'on ne voit pas la Lune. Ce n'est pas des gens qui savaient que c'était la pleine lune cette nuit-là. Et en plus, ils l'avaient fait a posteriori. C'est-à-dire qu'ils avaient eu plein de gens qu'ils avaient fait dormir dans leur laboratoire parce qu'ils étudiaient je ne sais plus quel facteur, tout à fait autre chose. Voilà, ils étudiaient le sommeil, c'est leur boulot. Et puis après coup, ils se sont dit, tiens, mais au fait, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation avec les phases de la Lune? Donc là, on peut penser qu'ils sont vraiment honnêtes. Ils n'avaient pas d'idée a priori, ils n'ont pas pu truquer leur étude. Ils mesuraient plein de paramètres, la durée du sommeil, le temps qu'on met à s'endormir. Ils faisaient même des dosages d'hormones, de l'électroencéphalogramme, je ne sais pas quoi.
Ouais.
Et ils ont trouvé que réellement, au moment de la pleine lune, les gens dormaient moins bien, ils mettaient plus longtemps à s'endormir. Enfin, tous les paramètres montraient que le sommeil était de moins bonne qualité. Voilà. Et donc, ils ont publié ça. En disant, ben, on ne sait pas trop comment l'expliquer, hein, puisque est-ce que c'est une question d'horloge interne, est-ce qu'on a des hormones qui sont produites sur un cycle de 30 jours
Et donc, tu es allé voir leurs chiffres là aussi?
Alors, je suis allé voir leurs chiffres, enfin, je ne suis pas tout seul, hein, y a plein de gens qui ont revu ça, parce qu'évidemment, ça étonne quand même pas mal. Et la remarque principale, quand même, c'est que leur échantillon était assez petit. Ils avaient 33 personnes.
Ouais.
33 personnes, ça ne permet pas de faire des statistiques très puissantes. C'est très bien pour une étude préliminaire. C'est-à-dire on cherche un petit peu des tas de phénomènes différents. Si on en trouve sur une proportion importante sur 33 personnes, on peut se dire « Ah, il y a quelque chose, ça vaut le coup d'aller étudier plus loin.
Ouais. »
Mais ça ne suffit pas du tout pour conclure.
Donc il reste encore des études supplémentaires à faire?
Alors ces études supplémentaires ont été refaites depuis,
ah,
dans d'autres endroits, avec des protocoles différents, avec des nombres de gens beaucoup plus grands pour certains, avec des méthodes différentes. Quelquefois, c'était juste en questionnant les gens restaient chez eux, mais on leur demandait après coup, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit-là ou pas.
Ouais.
D'autres, c'était en laboratoire. Enfin, on a vraiment varié beaucoup de choses pour essayer de confirmer, et ben, ça n'a pas marché.
Ah, on n'est pas arrivé à vérifier le résultat.
On n'est pas arrivé à reproduire ça. C'est-à-dire, plus les études sont sérieuses, dans le sens, plus c'est bien contrôlé, plus il y a un grand nombre de gens, et moins on observe des faits de ce genre. Donc ça laisse vraiment penser que c'est lié au hasard. Hein. Ça, c'est normal. Quand on fait, si tu jettes un dé 12 fois, il n'y a pas de raison que tu obtiennes exactement 2 fois chaque chiffre.
Oui.
Sur un petit nombre, il y a des fluctuations normales. Donc sur ce petit nombre de dormeurs, il y avait eu des fluctuations qui étaient apparemment corrélées avec la nouvelle lune. Et puis quand on prend les échantillons plus grands où là, les statistiques s'appliquent, l'effet disparaît.
Ah oui, donc finalement, vraiment, la lune n'a aucune influence, quoi.
Je t'ai dit au début qu'elle en a quand même par intermédiaire des marées, de la lumière, de la pleine lune. Bon, ça, c'est évident.
Ouais.
Mais il y a des cas où on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, mon préféré, c'est le ver palolo.
Le palolo?
Le ver, c'est un petit ver qui vit dans la mer. Hein.
Qui n'aime pas le lait.
Dans l'océan, il n'y en a pas beaucoup.
Palolo.
Il vit dans le Pacifique, près des îles Samoa.
D'accord.
Hein, c'est pas la porte à côté. Et ce qui est très marrant, c'est sa façon de se reproduire.
Ouais.
Donc, ils vivent au fond de l'eau. Et pour se reproduire, bon, les vers ils sont faits d'anneaux successifs.
Ouais.
Et le dernier anneau, au bout de la queue, c'est celui qui contient les cellules reproductrices,
ouais,
mâles ou femelles. Quand il veut se reproduire, il détache ce dernier anneau qui remonte à la surface.
Et s'il y a suffisamment de mâles et de femelles qui font ça en même temps, et bien les gamètes vont être relâchés et se rencontrer et se féconder et faire des petits palolos.
Ah d'accord, ils font pas crac-crac eux-mêmes, ils laissent le bout de leur queue aller faire crac-crac à leur place.
Alors il y a beaucoup d'animaux marins qui se reproduisent sans se toucher, hein, qui lâchent leurs gamètes directement dans l'eau, et là ils vont même plus loin que ça, quoi. Ils se coupent un bout de leur corps, qui remontent à la surface, et eux ils restent au fond.
D'accord.
Bon, jusque-là, c'est rigolo, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet.
Oui.
Sauf que ces petits bouts de verre pleins de cellules reproductrices, c'est vachement bon à manger, et ils ont des prédateurs, y compris d'ailleurs les êtres humains, les habitants des Samoa qui aiment beaucoup ça. Ce qui veut dire que s'il y avait tous les jours quelques vers qui relâchaient comme ça à la surface leur épitoque, ça s'appelle, l'épitoque c'est ce petit segment, ils se feraient bouffer au fur et à mesure par les prédateurs.
Okay.
Donc la stratégie que l'évolution a mis en place pour contrer ça, c'est qu'ils le font tous en même temps.
Ah ouais, donc ça fait un gros essaim de machins qui flottent.
Une nuit comme ça, il va y avoir des millions de petits épitoques de palolo. Épitoques de palolo, ça fait bizarre quand même.
Ouais.
Il va y avoir des millions d'épitoques de palolo qui vont remonter à la surface. Bien sûr, tous les prédateurs du coin vont se rassembler pour en bouffer autant qu'ils peuvent, mais il y en a tellement qu'ils ne pourront pas tout manger. Et même les habitants humains des Samoa, ils connaissent très bien le moment où ça va se passer, et ils font une grande fête ce jour-là, ils vont dans l'eau, ils en ramassent autant qu'ils peuvent, et ils les dégustent.
Mais donc ça veut dire que c'est prévu à l'avance, ils se donnent le mot pour le faire tous ensemble ?
Eh bien, that is the question. Comment est-ce qu'ils font pour faire ça tous ensemble ?
Ils communiquent.
Alors qu'ils sont au fond de l'eau, et on ne sait pas trop comment ils communiquent. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est complètement lié aux phases de la Lune.
Ah.
Alors, l'étonnant, c'est qu'ils sont quand même au fond d'une mer assez profonde, donc là, ils ne ressentent pas les marées.
Hein,
les
marées,
elles existent partout, mais on les ressent que quand on est près des côtes. Et c'est trop profond pour que la lumière de la Lune parvienne jusque-là.
Ah, ils ne voient pas la lumière et ils ne sentent pas les marées, et pourtant, ils savent que c'est la pleine Lune.
Alors, on ne sait pas s'ils savent vraiment que c'est la pleine Lune, mais en tout cas, ce n'est pas la nuit de la pleine Lune, c'est 7 jours après.
Ouais.
Et il y a vraiment une formule, on pourrait dire un algorithme, on peut faire un programme d'ordinateur pour calculer la date. Alors, s'il y a une pleine lune qui se produit entre telle date et telle date, alors la remontée des épitoques de palolo aura lieu 7 jours après, au dernier quartier. Par contre, si la pleine lune tombe entre telle date et telle date, alors ce ne sera pas à celle-là, mais ce sera à la suivante, au mois de novembre.
Ah ouais.
On est capable de prédire, si ça se produit entre telle date et telle date, il peut y avoir deux remontées, une en octobre, une en novembre, mais une moins forte et l'autre plus forte.
Ah oui.
Et donc vraiment, il y a une formule qu'on a su complètement expliciter, et il semble bien que les vers palolo appliquent cette formule, parce que vraiment ça marche tous les ans.
Donc c'est des petits vers qui non seulement savent percevoir la Lune, mais savent compter en plus.
Oui, bon, compter, on peut dire c'est leur horloge biologique.
Ouais.
Et par contre, ce déclenchement, cette synchronisation par rapport à la Lune, alors qu'ils sont à un endroit où vraiment on ne voit pas comment ils pourraient sentir ni les marées ni la lumière lunaire, pour l'instant, on ne comprend pas comment ça marche. On l'a observé, on l'a confirmé, c'est pas une légende samoenne, on peut le vérifier chaque année.
Ouais.
Mais... Donc tu vois, les recherches sur la Lune, c'est intéressant quand même. Bon, si tu lis quelque chose sur tel effet de la Lune sur les êtres humains, etc., il faut garder quand même un esprit critique, hein, parce que 99% du temps, c'est quand même bidon. Mais enfin, il faut être ouvert, il faut vraiment lire ce qu'on a comme preuve là-dessus, et si c'est vraiment étayé, bah, pourquoi pas, il faut le croire. Et c'est pareil pour la Blue Moon, hein, dont on parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui attribuent des propriétés particulières à la Lune bleue, là, les deux pleines lunes dans le même mois.
Alors que c'est purement mathématique. Juste 29 qui se décalent par rapport aux 30.
Là, pour le coup, je n'ai jamais entendu parler de phénomène particulier vraiment lié à la Lune bleue, mais qui sait.
Ok. Du coup, bah, dans mon prochain refrain, There's no magic to look for.
Il n'y a pas besoin de chercher de magie.
No secret ritual, no.
Ni rite secret, ni.
Witches, familiars gathering anywhere.
Ni des familiers, des sorcières qui se rassemblent où que ce soit.
Just very simple math.
Juste des maths très simples.
And the lunar cycle.
Et le cycle lunaire.
That's just a bit less than a whole month.
Qui dure un tout petit peu moins qu'un mois complet.
Donc finalement, bon, bah, la Lune, c'est quand même quelque chose qui est important, même pour les êtres vivants, quoi.
Oui, pour les êtres vivants actuels, bon, ça a plus ou moins d'importance suivant là où ils vivent. Mais même pour l'apparition de la vie sur Terre, finalement, on se demande si la vie aurait pu apparaître s'il n'y avait pas la Lune.
Ah bon ? Carrément ?
Carrément. Alors, il y a au moins deux phénomènes auxquels on peut penser. Tout ça, c'est assez spéculatif, hein. Mais il y a le fait que dans les débuts de la Terre, comme je t'ai dit, elle tournait beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que les marées, par exemple, ben, au lieu d'y en avoir toutes les 12 heures comme maintenant, il y en avait toutes les 3 heures.
Ah
C'était un
ouais.
bon brassage. Et en plus, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre à l'époque, donc les marées étaient beaucoup plus fortes.
Ouais.
Et il pouvait y avoir des vagues de 3 km de haut, des trucs
Toutes les
inimaginables.
3 heures, tu avais une vague de 3 km qui débarquait comme ça.
Donc ça fait un sacré brassage.
Ouais.
Et y compris pour l'érosion qui fait venir des minéraux de la Terre dans la mer. Les premières molécules qui allaient donner naissance à la vie, il fallait
Ouais.
bien qu'elles se rencontrent. La mer, c'est grand, donc plus il y a de brassage comme ça, de vagues de marée, peut-être plus il y a de chances qu'elles se rencontrent.
Ouais.
Donc, bon, il y a des scientifiques qui considèrent que ces marées très fortes et très fréquentes ont pu aider à l'apparition de la vie au tout début.
D'accord.
Puis un autre phénomène aussi, je t'ai parlé de l'inclinaison de l'axe de la Terre qui fait qu'il y a des saisons, hein, à peu
Oui,
près,
oui.
mais cette inclinaison, elle pourrait varier beaucoup. Si on prend d'autres planètes comme Mars, par exemple,
Ouais.
qui n'a pas de gros satellites comme nous, là aussi, il y a un axe qui est incliné, mais à l'échelle de quelques millions d'années, il s'incline plus, il s'incline moins, ce qui veut dire qu'il y a des moments où les saisons sont très marquées et d'autres moments où elles ne le sont pas du tout.
Ah.
Ce qui, pour l'évolution des êtres vivants, on peut penser que ça pourrait être plus problématique.
Ah bah oui, c'est pas très cool si tu te mets à geler alors que tu es à peine en train de te développer.
Si tu t'es complètement adapté avec des plantes qui poussent une fois par an et puis que finalement il n'y a plus de saison. Bon.
Ouais.
Par contre, sur Terre, les saisons sont relativement stables depuis des milliards d'années parce que l'attraction gravitationnelle de la Lune stabilise l'axe de la Terre.
Ah oui, ça nous fait comme une bouée autour de nous.
Ouais, si tu veux ça. La Terre est un petit peu élargie au niveau de l'équateur et donc la Lune attire ce petit bourrelet et il fait que la Terre ne peut pas trop basculer d'un côté ou de l'autre.
D'accord.
Donc voilà, ça pourrait être deux mécanismes par lesquels la Lune aurait vraiment joué un rôle important dans le développement de la vie. Et du coup, quand on s'interroge sur la possibilité de vie sur d'autres planètes, il faut se demander, est-ce qu'il y a besoin qu'elles aient un gros satellite pour les stabiliser et pour brasser les mers ou pas? Tout ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose, quoi.
Peut-être bien, ouais. Mais tu me disais que la Lune était très très proche de la Terre, donc ça veut dire qu'elle s'est éloignée.
Oui, et d'ailleurs, elle continue à s'éloigner. Pas très vite, hein, à peu près 4 cm par an.
Ouais,
Tu
enfin
vois,
quand même.
sur 400 000 km, ça ne fait pas beaucoup.
Ouais,
Mais
d'accord.
on pense quand même que quand elle s'est formée, elle était pratiquement 2 fois plus près.
D'accord.
Et c'est toujours à cause de ces fameuses forces de marée, hein, forces de marée qui ralentissent les différents mouvements de rotation, de révolution. Et quand un astre ralentit sur son orbite, en fait, il s'éloigne du corps central. Donc la Lune s'éloigne continuellement de nous. Et si ça continue comme ça pendant encore quelques milliards d'années, elle pourrait nous échapper complètement, partir
Elle
dans
pourrait s'en
l'espace.
aller, on n'aurait plus de lune.
Dans cette hypothèse, non. Après, il peut se produire d'autres phénomènes qui font qu'au bout d'un moment, elle cesse de s'éloigner et elle pourrait se rapprocher de nouveau. Enfin, tout ça, c'est encore des choses qu'on étudie, qu'on modélise. On ne maîtrise pas forcément tous les scénarios possibles.
Ouais, enfin j'espère qu'elle va pas s'en aller parce que franchement, ça serait triste, quoi.
Ce serait triste, mais bon, si on n'est plus là depuis 10 milliards d'années, ça ne nous manquera pas beaucoup.
Bon, mais seulement 10 milliards, hein. Alors, du coup, bah, je pourrais finir là-dessus, à la limite.
Nouvelle lune.
Wouldn't
La Terre ne serait pas la Terre sans toi. Nous ne voudrons jamais dire adieu. Notre bonne vieille lune, rien qu'à nous. Eh bien, je crois qu'on y est là. Tu veux envoyer ça à Alexandre?
Bah, on va voir ce qu'il dit, hein.
Brightly in the night. reflecting right into our sight, up to 1/8 of the sun's light. Though you don't have a dark side, for some reason you decide to show us the same face of your globe over again. Tidal deformation has locked your rotation, though liberationless to see a bit more white moon. It's just that we always come through. But from the science point of view, that color would be quite untrue. Gray moon, cold dusty mineral compounds, regolith where basalt abounds. Like Earth's most desolate ground, you may come from the big splash, but Santis Wonderwood crash could result in such a huge matter ejection. If he added collide, then debris would spread wide till mass spread gravitational accretion. Just an ordinary full moon, for the second time in a month, a rather common occurrence. Black moon, of a banal phenomenon, an arbitrary criterion. There's really not lots to dwell on. There's no magic to look for, no secret ritual, no witch's familiar gathering anywhere. Just very simple math and a lunar cycle that lasts just beat less than a whole month. New moon. Earth wouldn't be Earth without you. We'll never want to be that you. To our very own good old moon.
C'était le modèle standard avec Nicolas Graner de l'Université Paris-Saclay et Valentin Villeneuve de l'Ouvroir de musique potentielle.
Merci au CFMI Île-de-France et plus particulièrement à Nina Farge pour nous avoir permis d'enregistrer cet épisode.
La chanson New Moon est interprétée et produite par Alexandre Le Nagar,
accompagné de Victor Balédan à la clarinette, Jean-Claude Jurvilliers au tuba basse, Cécile Michaud au saxophone ténor et Valentin Villeneuve au piano.
Cet épisode, enregistré en juin 2019, est diffusé sous licence Art Libre. Retrouvez-nous sur lemodelstandard.fr.